Le silence des petits papiers, chapitre 31. Jean-Christophe tournait comme un ours en cage dans son bureau. Il fronçait souvent le sourcil, en parlant tout seul. Son entretien avec Amédée le confortait dans son désir de recherche de la vérité. Le silence des petits papiers l'obsédait. Il voulait à tout prix relier les articles de journaux, les lettres de Léonard et Yvonne Pivier, ainsi que les confidences des uns et des autres. Il n'arrivait pas à décider dans quel ordre il devait avancer. Il parcourut à nouveau les coupures. Il avait accompli les mêmes gestes des dizaines de fois, mais il espérait encore découvrir un élément lui ayant échappé précédemment. Il jeta son dévolu sur les quelques lignes qui relataient l'éboulement qui avait obstrué de manière définitive la route reliant deux villages savoyards. Quelque chose le chagrinait. Il n'arrivait pas à déterminer quoi. Il le lut en long, en large et en travers. Rien ne lui paraissait évident. Il s'empara d'une autre coupure, qu'il reposa aussitôt. Il savait que la réponse à ses interrogations se trouvait là. Oui, mais où ? Joël Massard s'était employé à rédiger son papier sans fioriture. Il racontait simplement l'incendie qui avait détruit une grange abritant environ 80 veaux. Il s'empara du journal relatant la destruction du bâtiment. Son sang ne fit qu'un tour. Son sourcil modifia sa courbe. Il reprit l'article sur l'éboulement, le reposa et se dirigea vers son ordinateur. Il tenait un agenda électronique. Outlook lui apporta la confirmation de son hypothèse. Maintenant, il venait de découvrir un lien entre deux événements s'étant produits à plus de 100 kilomètres de distance. La grange d'Amédée avait flambé le même jour que l'effondrement des tonnes de rochers sur la voie reliant les deux villages. Il lui restait à découvrir le fil invisible raccordant ces faits divers. Sa perplexité était grande. Il n'y avait eu aucune victime humaine dans chaque cas. Alors que voulait dire celui qui avait posté l'enveloppe? Pourquoi n'avait-il pas joint le papier concernant la fin tragique des veaux d'Amédée? Hormis la concordance des dates, il n'arrivait pas à percevoir ce dénominateur commun. Pourtant, il avait acquis la certitude qu'il y en avait un. Il s'employa à décortiquer la chronologie des deux événements. Il commença par la grange d'Amédée. Il se rappelait parfaitement le déroulement de l'incendie. Lorsqu'ils approchèrent de la ferme, la nuit était tombée. Il se souvint que son épouse était sortie fumer une cigarette avant de se mettre au lit. Il put ainsi déterminer un créneau pour le démarrage du feu. Il avait une petite idée en tête. Sa énième lecture de l'article sur l'éboulement lui permit d'étayer son hypothèse. L'heure de l'écroulement du pan de montagne est figurée. Il réalisa un peu de calcul mental pour arriver à sa conclusion. Il s'était écoulé moins de 2 heures entre le déclenchement des deux faits divers. Un détail le chagrinait. Il s'évertuait à chercher un lien entre ces deux affaires alors que l'expéditeur de la lettre anonyme ne lui donnait qu'un article en pâture. Ça ne collait pas. Jamais il ne pourrait mettre cette pièce dans le puzzle. Pourtant, son intuition l'incitait à foncer dans cette direction. Il était rare que ses pressentiments s'avèrent des voies de garage. Son sixième sens lui avait permis d'éviter des situations délicates. Aujourd'hui, c'était bien différent. Il utilisait son flair pour résoudre un rébus. Poursuivant le même cheminement intellectuel, il relut le papier de Joël Massard concernant l'Alfa Romeo embourbé dans le marais. Il sentait que la porte d'entrée se trouvait là, d'autant que cette sortie de route s'était produite peu de temps avant l'incendie et l'éboulement. Ce qui l'intéressait, c'était l'absence de victimes. Il espérait, comme le petit poussé, qu'un des protagonistes de l'histoire ait posé des petits cailloux. Il était persuadé que le conducteur et ses passagers s'étaient volatilisés de l'autre côté de la frontière. À cette période de l'année, il n'y avait que 2 possibilités, le tunnel du Mont-Blanc ou celui du Fréjus. Cette solution de repli lui paraissait évidente. Ça le ramenait inéluctablement vers la route éboulée. Il échafauda une autre théorie. Il pouvait y avoir quelqu'un qui avait fait demi-tour juste après la chute des rochers. Dans ce cas, que venait faire cette coupure dans l'enveloppe? Têtu comme une mule, il se fixa sur ce postulat. La route obstruée amenait quelqu'un ou quelque chose au village de montagne. Continuant son délire, il opta pour un véhicule s'étant trouvé sur les lieux de l'incendie de la ferme d'Amédée 2 heures plus tôt. L'intuition l'amenait vers cette construction farfelue. La raison lui dictait de s'en éloigner. Hélène arriva du travail. Elle trouva son homme très préoccupé. Elle décela quelques froncements de sourcils. Elle l'embrassa et lui demanda de bien vouloir la suivre au salon. Tel un automate, il s'exécuta. Elle servit 2 verres de whisky, puis se posa dans un fauteuil club. Jean-Christophe en fit de même. Inquiète de l'obsession de son époux, elle préféra l'aborder en douceur. Ils discutèrent un long moment. Il lui expliqua son point de vue sur ce qu'il appelait le silence des petits papiers. Elle aussi fit preuve de curiosité. Il lui avait présenté ses hypothèses. Elle abonda dans son sens. Elle réussit à le convaincre de passer un week-end chez des amis dans le sud de la France. Elle y mit une condition. Il n'était pas question d'emmener des documents ayant un rapport avec l'enveloppe, ni d'amener la conversation sur le sujet. Il accepta de bonne grâce. Un break serait le bienvenu. Hélène passa un coup de fil. 1 heure plus tard, ils mirent une valise dans le coffre et se dirigèrent vers l'autoroute A7. Les cigales et le soleil prendraient le relais. Il ne put évacuer l'affaire de son esprit pendant la première heure de route. Sa dernière pensée fut pour le correspondant local du journal. Il essaierait de rencontrer Joël Massard la semaine prochaine.